Message aux sept églises d'Apocalypse. Chapitre 1. Préface. Les pages qui suivent sont un simple exposé sur les messages aux sept églises. J'ai cherché à suivre le déclin de ce qui porte le nom d'église depuis son abandon du premier amour jusqu'au moment solennel où elle sera vomie de la bouche de Christ. D'autre part, j'ai cherché à présenter la pensée du Seigneur au sujet de l'église vue dans sa responsabilité à chaque étape de son histoire, afin que les consciences des siens soient touchées par ses avertissements et leur cours réconforté par ses paroles d'encouragement. Versets 1 à 8. Introduction. Citation de l'Écriture. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt, et il l'a signifiée en l'envoyant par son ange à son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ de toutes les choses qu'il a vues. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux sept assemblées qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est et qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et il nous a fait un royaume, des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la force, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, et qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Fin de citation. En commençant l'étude du dernier livre de la Bible, on se rend compte dès les premiers versets qu'il s'agit d'un livre de jugement. Chaque vérité y est présentée en parfait accord avec ce sujet solennel. Vu dans son ensemble, le livre est présenté comme étant la révélation, terme qui évoque la présentation d'une vérité qui, autrement, serait cachée. De plus, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Ainsi, Christ est vu ici, comme du reste dans tout le livre, dans sa parfaite humanité, bien que, comme toujours, il y ait des déclarations qui sauvegardent et maintiennent sa divinité. En gardant à l'esprit le fait que l'Apocalypse est le livre du jugement, qui prépare le chemin pour que Christ hérite de la terre, on verra immédiatement combien il convient que Christ soit présenté dans son humanité, car c'est comme homme que Christ est appelé à être juge, et comme homme qu'il héritera de toutes les choses créées. Jean 5, verset 27, Actes 17, verset 31, Psaume 8, verset 4 à 8. Ensuite, la révélation fut donnée à Christ pour montrer à ses esclaves. Ainsi, les croyants ne sont pas vus dans leur relation avec le Père comme fils, mais en relation avec Christ comme esclave. À nouveau, cela est parfaitement compréhensible quand nous nous souvenons que le livre ne développe pas les privilèges de fils, comme nous le trouvons dans les Épîtres, mais exprime plutôt le jugement du Seigneur sur le chemin de ceux qui, professant être croyants, se sont acquittés de leur responsabilité d'esclaves. De plus, nous apprenons par l'introduction que le grand dessein de Christ, dans l'Apocalypse, est de montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Le contenu du livre montre clairement que ces choses sont les jugements qui vont fondre bientôt sur la chrétienté et sur le monde en général. Ces jugements sont donnés à connaître non pour satisfaire la curiosité ou alimenter l'esprit charnel dans sa recherche du sensationnel, mais afin que les esclaves de Christ, avertis du jugement qui vient, marchent dans une sainte séparation d'un monde impie et condamné au jugement. L'Apocalypse, comme toutes les autres communications de Dieu, est donnée pour produire un effet moral actuel sur ceux qui écoutent. Elle n'est pas seulement communiquée, mais signifiée, terme qui implique une communication accompagnée de signes visibles, nous préparant ainsi aux visions de ce livre. Jean, qui reçoit ces communications, est vu non comme le disciple que Jésus aimait, qui se penchait sur la poitrine de Jésus et partageait les pensées intimes de son cœur, ni même comme un apôtre envoyé vers les autres pour communiquer les pensées de l'amour, mais comme un esclave responsable devant son maître. Ayant reçu ces communications, Jean les transmet à d'autres. Il a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. La révélation vient avec toute l'autorité de la parole de Dieu. De la même manière, elle est le témoignage de Jésus, non un témoignage à Jésus, bien qu'elle contienne des vérités qui réellement rendent témoignage à Jésus. Le témoignage de Jésus est ce qu'il communique lui-même quant aux choses qui doivent arriver bientôt, choses que Jean a vues, comme il le redit au chapitre 22, verset 8. Ces versets d'introduction se terminent en apportant une bénédiction spéciale à celui qui lit et à ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, bénédiction qui ne sera effective que si les paroles lues et entendues sont gardées. Garder implique la soumission à ces paroles qui agiront ainsi pratiquement sur notre conduite. Certes, cela réclamera de nous bien des sacrifices, mais, comme toujours, le chemin de l'obéissance sera un grand gain, bien qu'il comporte le renoncement à soi-même. Le livre entier de l'Apocalypse est considéré ici comme une prophétie, montrant nettement que même les messages aux sept églises ont un caractère prophétique. Enfin, il nous est rappelé que le temps est proche. L'esclave ne doit pas attendre quelques nouvelles révélations, mais doit marcher avec patience à la lumière de la révélation des choses qui doivent arriver bientôt, sachant que le temps est proche. Après les versets d'introduction, nous avons la salutation de l'apôtre par laquelle nous apprenons que le témoignage rendu par Jean prend la forme d'une lettre adressée aux sept assemblées de la province romaine d'Asie. La salutation est caractéristique du livre. La grâce et la paix sont promises aux assemblées, non comme étant composées d'enfants en relation avec le Père, mais d'esclaves sur la terre en rapport avec le trône du gouvernement. Ainsi, Dieu est vu sous le nom de l'Éternel, nom qu'il prend en rapport avec Israël et la terre, celui qui est, et qui était, et qui vient. Le mot hébreu traduit par l'Éternel dans l'Ancien Testament signifie « celui qui est ». Ensuite, l'Esprit est vu dans sa plénitude comme les sept esprits devant le trône de l'Éternel, montrant sans aucun doute la plénitude de l'Esprit prêt à être envoyé sur toute la terre, comme nous l'apprenons par le verset 6 du chapitre 5. N'avons-nous pas en Ésaïe 11, verset 2, la signification de cette septuple perfection de l'Esprit en rapport avec Christ, la branche fertile de la racine d'Isaïe ? Nous y lisons « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » De même aussi, Christ est présenté en rapport avec le gouvernement de la terre. Il est le témoin fidèle, celui qui a parfaitement révélé Dieu sur la terre. Il est le premier-né des morts, celui qui a brisé la puissance de la mort sur la terre. Il est aussi le prince des rois de la terre, celui qui règnera sur tout ce qui règne sur la terre. Combien il est heureux que les personnes divines qui sont vues ici en rapport avec le gouvernement de la terre, ayant la charge du contrôle, de la direction et du jugement, assurent grâce et paix aux assemblées et aux serviteurs qui sont encore sur cette terre où le jugement s'exerce. Cette salutation appelle immédiatement une heureuse réponse de l'Église. Jean, qui la représente, dit « À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et il nous a fait un royaume, des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. » Son amour est vu comme une réalité présente, permanente, bien que l'œuvre par laquelle il a été si parfaitement manifesté soit accomplie. C'est un amour sans borne, car qui peut estimer la valeur du sang par lequel l'amour a été ainsi montré ? Par le sang précieux, les croyants ont été lavés de leurs péchés et sont ainsi assurés, lorsqu'ils ouvrent le livre du jugement, qu'ils sont eux-mêmes à l'abri du jugement. De plus, non seulement les croyants sont lavés de leurs péchés, mais, comme tels, ils sont constitués en un royaume. Cela ne suggère-t-il pas un groupe de personnes qui sont soumises à Dieu pour faire sa volonté et non leur propre volonté comme autrefois ? Voir 1 Pierre 4, versets 2 et 3. Ensuite, les croyants sont vus comme sacrificateurs pour le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et, comme tels, ils ont accès auprès de Dieu pour l'intercession et la louange. Cette réponse à la gloire de Jésus-Christ se termine par un jaillissement de louange au Seigneur. À lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Combien belle est cette présentation de l'Église dans ses privilèges. Aimée de Christ, lavée par son sang précieux, soumise à Dieu, ayant accès auprès du Père, et louant le Seigneur Jésus, un peuple aimé, un peuple purifié, un peuple obéissant, un peuple de sacrificateurs et un peuple d'adorateurs. Quand nous en arrivons au message aux sept assemblées, qui présente l'Église dans sa responsabilité, nous apprenons, et cela est solennel, combien elle est loin d'avoir répondu à ses privilèges. Il y a, il est vrai, deux assemblées, Smyrne et Philadelphie, auxquelles le Seigneur ne trouve rien à reprocher, mais les cinq autres se sont gravement écartés de ce qui était leurs privilèges normaux, tels qu'ils nous sont présentés dans cette magnifique doxologie. À Éphèse, il y a eu l'abandon de l'amour de Christ. À Pergame, au lieu d'une condition convenant à ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau, la souillure est tolérée. À Thyatire, au lieu d'un royaume où tous sont soumis au Seigneur, l'assemblée s'arroge la place d'autorité. Sardes a devant les hommes le nom de vivre, mais devant le Seigneur elle est morte. Elle a perdu le service de la sacrificature devant Dieu. À Laodicée, au lieu d'exalter le Seigneur et de lui attribuer toute gloire et domination, l'Église s'exalte elle-même et, dans la pratique, ignore Christ. Ce jaillissement de louange est suivi par un témoignage à Jésus-Christ. Jean s'est adressé aux assemblées, plaçant devant elles Christ dans sa gloire et éveillant un écho fervent dans leur cœur. Maintenant, il annonce celui qui vient sur la terre comme juge. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. En fait, ceci n'est pas l'espérance de l'Église, mais le témoignage qu'elle rend. Elle ne se lamentera pas quand elle sera enlevée à la rencontre du Seigneur en l'air. Alors, vraiment, pour elle, toutes les larmes seront essuyées. Cependant, pour le monde qui a rejeté Christ et s'est moqué de sa venue, ce sera un temps de lamentation, quand le Seigneur viendra, au milieu de ses saintes myriades, pour exécuter le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs œuvres d'impiété qu'ils ont impiement commises et de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Jude 14 et 15. À ce témoignage, le Seigneur lui-même répond « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Le juge qui vient est l'alpha et l'oméga, comme un autre a justement dit, celui dont la parole est le commencement et la fin de tout discours, tout ce qui peut être dit est dit quand il a parlé. Au commencement, sa parole a amené toute chose à l'existence, et à la fin, sa parole, ses faits, fixera leur état éternel. D'autre part, il est le Seigneur Dieu, l'Éternel, comme il a été dit, le Dieu qui garde l'alliance immuable en face de tous les jugements, dont les menaces comme les promesses se réaliseront pareillement. Il est aussi le Tout-Puissant, celui qui, avec une puissance irrésistible, est à même de mettre à exécution ses menaces et d'accomplir ses promesses. Versets 9 à 18. La vision du Fils de l'homme. Citation de l'Écriture. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus en esprit dans la journée dominicale, et j'ouïs derrière moi une grande voix, comme d'une trompette, disant « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept assemblées, à Éphèse, et à Smyrne, et à Pergame, et à Thyatire, et à Sardes, et à Philadelphie, et à Laodicée. » Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis sept lampes d'or, et au milieu des sept lampes, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, et ceint à la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à de l'airain brillant, comme embrasé dans une fournaise, et sa voix comme une voix de grandes eaux, et il avait dans sa main droite sept étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage comme le soleil quand il luit dans sa force. Et lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il mit sa droite sur moi, disant « Ne crains point, moi je suis le premier et le dernier et le vivant, et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Hadès. » Fin de citation. La vision du Fils de l'homme dans sa dignité de juge sert d'introduction au message qui donne son jugement sur les sept assemblées. Il nous convient de nous attarder sur la vision, car c'est la grandeur de celui qui parle qui donne de la valeur à ses paroles. Ainsi, plus nous aurons conscience de la gloire de celui qui parle, plus nous prêterons attention à ce qu'il dit. Avant d'avoir la vision de Christ, nous apprenons que de telles révélations demandent des circonstances spéciales. Elles exigent un état d'âme convenable et un temps approprié. C'est ainsi que Jean se trouve dans des circonstances éprouvantes et, bien que vraiment sujet du royaume comme soumis à Christ, il n'a pas encore sa part dans le royaume en gloire, mais au royaume et à la patience en Jésus. En outre, il est exilé dans l'île aride de Patmos. Cependant, s'il est banni par les décrets de l'homme dans un lieu désolé, c'est afin de recevoir, à l'abri de toute autre influence, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Bien souvent, dans l'histoire du peuple de Dieu, des temps d'épreuve sont devenus des temps de progrès spirituel. Comme un autre l'a montré, il faut que Joseph aille en prison pour devenir un révélateur de secrets. Il faut que David soit conduit dans les antres de la terre pour chanter ses chants les plus doux. Il faut que Paul souffre l'emprisonnement pour recevoir ses plus hautes révélations, et Jean doit être exilé à Patmos pour entendre des paroles et voir des visions qu'un mortel n'avait jamais entendues ni vues auparavant. Jean n'est pas dans ce lieu solitaire comme un ermite exilé, aigri contre le monde, mais comme un proscrit pour qui le monde n'a pas de place. Bien que, séparé des rachetés du Seigneur, il peut toujours parler de lui-même comme leur frère qui a part avec eux à la tribulation, et le Seigneur fait de la solitude de Patmos une occasion pour Jean de servir les autres en amour. De plus, Jean n'était pas seulement dans le lieu qui convenait pour recevoir la révélation de l'Apocalypse, il était aussi dans un état moral convenable, car il peut dire « je fus en esprit ». Cela indique quelque chose de plus que le fait d'être dans l'état approprié et normal du croyant, c'est-à-dire dans l'esprit, selon Romains 8, verset 9. Il semblerait plutôt que ce soit un état spécial dans lequel l'apôtre se trouvait, si complètement sous la puissance de l'esprit, qu'il en était étranger à toute autre chose que la vision et les communications merveilleuses qui allaient être devant lui. Ensuite, l'Apocalypse fut donnée à l'apôtre à un moment particulier. C'était dans la journée dominicale. Ce terme ne doit pas être confondu avec le jour du Seigneur, expression trouvée dans les prophètes et utilisée par les apôtres Paul et Pierre pour désigner le jour où le Seigneur viendra soudainement, comme un voleur dans la nuit, pour exécuter le jugement. 1 Thessaloniciens 5, verset 2, 2 Thessaloniciens 2, verset 2, 2 Pierre 3, verset 10. Manifestement, les choses qui sont décrites dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, et la plus grande partie des choses qui doivent arriver après celles-ci, verset 19, n'ont pas lieu au cours du jour du Seigneur. Cela n'aurait pas de sens que l'apôtre soit en esprit au jour du Seigneur pour voir des choses qui doivent avoir lieu 2000 ans avant ce jour. Ainsi, il semble clair que le jour du Seigneur est le jour de la résurrection, vu dans d'autres écritures comme le premier jour de la semaine. Il est appelé la journée dominicale pour indiquer que ce n'est pas un jour ordinaire, comme aussi la scène dominicale est ainsi appelée pour la distinguer d'un repas ordinaire. C'est un jour spécialement mis à part, non par un commandement légal, comme dans le cas du sabbat juif, mais comme un privilège spécial pour l'adoration et le service du Seigneur. Ainsi, c'est dans un lieu retiré du monde que, dans un état moral convenable, en esprit, et au cours d'une journée particulière, la journée dominicale, Jean est interpellé par une grande voix, comme d'une trompette, pour voir ses visions merveilleuses et entendre ses solennelles communications. Ce que Jean voit, il lui est dit de l'écrire dans un livre et de l'envoyer aux sept assemblées. L'apôtre a déjà envoyé des salutations aux sept assemblées. Maintenant, elles sont désignées par leur nom. Le livre est adressé à sept assemblées seulement. Néanmoins, l'Esprit de Dieu a choisi la forme écrite de communication plutôt que la forme orale, afin que l'Église tout entière, dans tous les temps, en fasse son profit. Jean se retourna pour voir celui qui lui parlait, et nous avons immédiatement la première grande division du livre, appelée par le Seigneur « Les choses que tu as vues ». Verset 19. Jean a d'abord devant lui la vision de sept lampes d'or. Un peu après, nous apprenons que les lampes représentent sept assemblées. Ce symbole de la lampe suggère immédiatement qu'elle représente l'Église vue dans sa responsabilité de maintenir une lumière pour Christ dans les ténèbres de ce monde. L'or indique que l'Église a été établie au début de son histoire sur la terre pour être un témoignage pour Christ dans un caractère qui convient à la gloire divine. De plus, c'est sûrement l'Église professante qui est en vue, car plus loin, nous apprenons qu'il est possible que la lampe soit ôtée et que, finalement, ce que la lampe représente devienne un objet de dégoût pour Christ. Ensuite, Jean voit, au milieu des sept lampes, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. C'est, nous le savons, une vision de Christ sur le point de juger, car tout jugement est donné au Fils de l'homme, afin qu'il soit honoré dans cette condition humaine où il a connu le mépris et le rejet des hommes. Néanmoins, il est parlé de lui comme celui qui est semblable au Fils de l'homme, indiquant qu'il est une personne divine qui a été manifestée en chair. Ici, Christ n'est pas présenté au milieu de l'assemblée pour conduire les louanges de son peuple, ni au milieu de deux ou trois pour conduire leurs prières. Il n'est pas vu non plus comme le seul berger réunissant les brebis en un seul troupeau, ni comme la tête de l'Église, qui est son corps. Il est vu sous l'aspect solennel du juge au milieu de la profession chrétienne. Il marche, chapitre 2, verset 1, au milieu des assemblées, observant leur état et prononçant le jugement, que ce soit approbation ou reproche. Tous les traits par lesquels il est décrit sont en accord avec son caractère de juge. Son vêtement n'est pas saint pour le service de grâce et d'amour, comme au jour heureux encore à venir où ses esclaves seront rassemblés dans le ciel. Alors il se ceindra et les fera mettre à table, et s'avançant il les servira. Luc 12, verset 37. Ici, le Seigneur est vu vêtu d'une robe qui allait jusqu'aux pieds, convenant à la dignité du juge. De plus, il est ceint à la poitrine d'une ceinture d'or, indiquant que les affections sont retenues par tout ce qui est dû à la gloire divine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ces symboles, comme nous le savons par Daniel 7, verset 9, montrent la gloire de Dieu comme juge sur son trône. Ainsi, nous apprenons que le Fils de l'homme lui-même possède les caractères de l'Ancien des Jours de la vision de Daniel. En temps voulu, il s'avancera, couronné de plusieurs couronnes. Ici, il n'y a pas de couronne, car le temps du règne n'est pas encore arrivé. Le trône de jugement doit précéder les gloires du royaume. Il doit premièrement purifier la scène de tout mal comme juge, avant de régner en gloire comme roi. Ses yeux, comme une flamme de feu, montre le caractère scrutateur de ce regard auquel rien n'est caché. Ses pieds, semblables à de l'airain brillant, comme embrasés dans une fournaise, parlent de l'inflexible sainteté de la marche, qui jamais ne se tourne vers un chemin tortueux et qui est pur de toute souillure de la terre. Sa voix, comme une voix de grandes eaux, exprime la puissance de sa parole à laquelle aucun homme ne peut résister. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Toute autorité subordonnée, représentée par les étoiles, est sous son contrôle et est maintenue par sa puissance. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Tout est jugé par sa parole infaillible, épée à 2 tranchants qui s'occupe non seulement de la conduite extérieure, mais discerne les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4, versets 12 et 13. Son visage comme le soleil quand il luit dans sa force. Symbole qui implique que, comme juge, il est investi de l'autorité suprême. Cette grande vision du Fils de l'homme comme juge a un tel effet que même un apôtre tombe à ses pieds comme mort. Jean avait connu Christ dans son humiliation dans les jours de sa chair et avait autrefois reposé sa tête dans le sein de Jésus. Sur la montagne, il avait vu Christ dans les gloires de son royaume. Il avait parlé avec Christ revêtu de son corps de ressuscité. Mais jamais, auparavant, il n'avait vu Christ dans sa dignité de juge. Cependant, il faut se souvenir que c'est l'attitude que Christ prend envers la chrétienté professante. Il est vrai que, comme croyant, nous le connaissons comme notre sauveur. Comme membre de son corps, nous le connaissons comme la tête. Comme serviteur, nous le connaissons comme notre Seigneur. Néanmoins, comme faisant partie de la grande profession chrétienne, nous avons affaire à lui comme juge dans toute notre marche d'assemblée. Note. Dans tout ce texte, professer signifie faire profession de. La profession désigne l'ensemble des professants, de ceux qui déclarent être chrétiens, qui en portent le nom. Parmi eux, on distingue les croyants, ceux qui ont la vie par la foi personnelle en Jésus-Christ, et les simples professants qui portent le nom de chrétien sans foi personnelle. Nous l'avons déjà dit, le croyant le connaît sous des caractères différents et plus précieux, mais la grande multitude de la profession chrétienne, composée de simples professants, ne peut le connaître que comme juge. La multitude peut professer l'honorer en érigeant des temples magnifiques pour son culte et en faisant de grandes œuvres en son nom. Cependant, s'il saisissait un seul rayon de sa gloire, il prendrait conscience qu'il marche au milieu de la profession comme un juge et il tomberait à ses pieds comme mort. Il en allait tout autrement pour Jean, votre frère, ayant part à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus. Il n'y avait aucune raison d'avoir peur. La main du Seigneur et sa voix lui rappellent la personne si bien connue dans les jours de son humiliation, Jésus, dont il avait si souvent entendu la voix annoncer la paix. Ne crains point. Celui qui est le juge, le premier et le dernier, est celui qui a été mort et qui maintenant vit à jamais. Tout ce qui serait de nature à troubler le croyant, ici Jean, et l'humilité lui convient toujours dans son témoignage, devant le juge, a été porté et à jamais ôté par la mort de celui qui va juger. Les clés de la mort et du Hadès sont dans sa main. Le croyant n'a donc aucune raison de craindre, car ces clés ne peuvent être utilisées par aucun autre que celui qui nous aime et qui est mort pour nous. Comme quelqu'un l'a dit, notre Seigneur est le maître absolu de tout ce qui pourrait menacer l'homme, qu'il s'agisse du corps ou de l'âme. Versets 19 et 20. Les messages aux assemblées. Citation de l'Écriture. Écris donc les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après celles-ci. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma droite, et les 7 lampes d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées, et les 7 lampes sont 7 assemblées. Fin de citation. Les 2 derniers versets du 1er chapitre forment une introduction appropriée au message du Seigneur aux 7 assemblées. Ses craintes dissipées, l'apôtre est invité à mettre par écrit les choses qu'il a vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après celles-ci. Nous avons donc ici la division de l'Apocalypse que le Seigneur donne lui-même. Premièrement, les choses que tu as vues, se rapportant à la vision du Fils de l'homme comme juge, versets 9 à 18. Deuxièmement, les choses qui sont, c'est-à-dire les messages aux sept assemblées, représentant les choses qui existaient alors et la condition qui continuera d'exister durant la période de l'Église, chapitres 2 et 3. Troisièmement, les choses qui doivent arriver après celles-ci, comprenant les grands événements prophétiques qui suivront lorsque la période de l'Église sera terminée, chapitres 4 à 22. Comme introduction nécessaire au message aux assemblées, le Seigneur explique le mystère des sept étoiles et des sept lampes d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept assemblées, et les sept lampes sont les sept assemblées. Les anges des assemblées paraissent représenter ceux qui y sont établis pour donner la lumière céleste, comme les étoiles, qui sont les symboles des anges, donnent de la lumière dans les cieux. Mais, comme les étoiles par rapport à la lumière du soleil, ils sont des porteurs de lumière subordonnés, agissant sous l'autorité de Christ. Le soleil est la grande et suprême source de lumière pour la terre entière. On a besoin des étoiles quand le soleil est couché. Et la faible lumière qu'elles émettent a le même caractère et la même nature que celle du soleil. Durant l'absence de Christ, la perfection du témoignage de l'Église serait de répandre une lumière semblable à celle de Christ dans la gloire céleste, la même en qualité, bien que fort inférieure en intensité. D'une manière spéciale, les anges des Églises sont responsables devant Christ de l'état moral des assemblées, car, si les Églises dans leur ensemble sont responsables de leur état moral, celui-ci dépend dans une grande mesure du caractère du ministère qu'elles reçoivent. Si dans chaque Église, le Seigneur s'adresse à l'ange et le tient ainsi pour responsable de l'état de l'assemblée, cependant, on peut voir qu'il passe constamment de paroles adressées directement à l'ange à des avertissements à l'Église. Ainsi, dans le message à Pergame, il parle d'un martyr fidèle qui a été mis à mort parmi vous, chapitre 2, verset 13. Et encore dans le message à Smyrne, « Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison », chapitre 2, verset 10. Ce passage du singulier au pluriel ne permet pas de considérer l'ange comme une personne exerçant la fonction de président, et nous oblige à voir en lui un représentant symbolique de l'Église. Les sept lampes sont les symboles des sept Églises. Dans les versets 4 à 11 du chapitre 1, il est clair que nous avons sept Églises qui ont réellement existé dans la province d'Asie. Il est cependant également clair que ces assemblées retracent l'histoire de toute la période de l'Église. Sept Églises d'Asie, alors sur la scène, ont été choisies, car elles présentaient des traits moraux qui ont été utilisés par Christ pour montrer prophétiquement l'état moral de l'Église professante, dans son ensemble ou dans un de ses aspects, à différentes périodes de son histoire. Il y a de solides raisons de penser ainsi. En premier lieu, au verset 3 du chapitre 1er, le livre entier de l'Apocalypse est vu comme une prophétie. Cela donne un caractère prophétique à ces messages. Ensuite, le chiffre 7 dans l'Écriture est un symbole constant d'un état complet et, de même que les sept esprits parlent de la plénitude du seul esprit, de même nous concluons que les sept églises présentent une vue complète des différentes phases de toute la profession chrétienne. Peut-être, cependant, l'argument le plus convaincant en faveur du caractère prophétique des églises est, comme quelqu'un l'a dit, la correspondance étroite entre le tableau donné par les sept assemblées et l'histoire bien connue de l'Église professante. Pour tirer profit des messages aux sept assemblées, il ne faut pas seulement reconnaître leur caractère prophétique, mais il est aussi de première importance de ne pas perdre de vue l'aspect particulier sous lequel le Seigneur est vu en relation avec l'assemblée, ainsi que l'aspect sous lequel l'Église est vue en relation avec Christ. L'Église est considérée non comme le corps, dont Christ est la tête dans le ciel, et dans lequel rien de ce qui est sans la vie ne peut entrer, mais comme une apparence de corps, constituée d'hommes qui, sur la terre, se réclament du nom de Christ, ensemble qui peut renfermer, et renferme de fait, une grande profession sans vie. Cette profession a pris le nom de Christ, qu'elle lui appartienne ou non. Ce fait la rend responsable de marcher en accord avec l'ordre de la maison de Dieu, et ainsi, de représenter sur la terre Christ qui est dans le ciel, dans tout son amour, sa fidélité et sa sainteté, en un mot, d'être une lumière pour Christ ici-bas. Si l'Église est vue comme le corps de Christ, on ne pourrait dire qu'il la rejette. Cependant, ce qui professe être l'Église sera finalement un tel objet de dégoût qu'il la vomira de sa bouche quand ce qui est réellement l'Église, le corps de Christ, aura été enlevé. De plus, souvenons-nous que Christ n'est pas vu ici comme la tête de son corps, accordant des dons au corps, pourvoyant en grâce à ses besoins et révélant les privilèges célestes des saints, comme dans l'Épître aux Éphésiens. Il n'instruit pas les assemblées quant au principe de l'ordre et de la discipline dans l'Église, comme dans les Épîtres aux Corinthiens. Le Seigneur n'instruit pas non plus le fidèle quant à la manière dont il doit se conduire en un temps de ruine, comme dans la seconde Épître à Timothée. Ici, le Seigneur est présenté comme marchant dans son caractère de juge au milieu de la profession chrétienne, avec des yeux comme une flamme de feu. Il sonde l'état de ceux qui professent son nom, dans quelle mesure les assemblées ont répondu à leurs privilèges célestes ou s'en sont écartées, jusqu'à quel point elles se sont acquittées de leur responsabilité à maintenir l'ordre divin et à obéir aux instructions divines, ou y ont failli. Ensuite, ayant sondé l'état des assemblées, le Seigneur prononce le jugement sur ce qu'il trouve. Il approuve ce qui est bien, il condamne tout ce qui n'est pas selon lui. Il avertit à l'égard du mal, il donne des encouragements aux vainqueurs. Pour aider à comprendre le caractère prophétique de ces messages, on peut indiquer brièvement les différentes périodes de l'histoire de l'Église telles qu'elles sont révélées par les sept messages. Le message adressé à l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse présente clairement la condition de l'assemblée au début de son déclin, à la fin des jours du dernier apôtre et pendant les années qui ont suivi son départ. Le message à l'assemblée qui est à Smyrne semblerait présenter l'état général de l'Église durant la période des persécutions venant du monde païen. Dans le message à l'assemblée qui est à Pergame, nous avons l'état général de l'Église lorsque les persécutions venant des païens firent place à la protection du monde. Le message à l'assemblée qui est à Thyatire montre l'état de l'Église telle qu'elle est aux yeux de Dieu quand, au lieu d'être protégée par le monde, elle cherchera à le dominer. Cet état a connu son apogée au temps de la papauté. Il a cessé, après un temps, de représenter l'ensemble de la profession chrétienne, mais dure jusqu'à la fin de la période de l'Église. Dans le message à l'assemblée qui est à Sardes, nous voyons l'état qui résulte, pour une partie de la profession chrétienne, de la corruption introduite par l'homme dans la réforme. C'est un état qui se développe à partir de Thyatire, et en opposition à Thyatire, bien que coexistant avec elle jusqu'à la fin. Dans le message à l'Assemblée à Philadelphie, se trouve présenté un résidu fidèle, séparé de la corruption de Thyatire et de l'état de mort de Sardes, et qui continue jusqu'à la fin. Dans le message à l'Assemblée qui est à Laodicée, le dernier des sept, se trouve présentée la phase finale de la profession chrétienne. Elle est un objet de dégoût pour Christ, à tel point qu'il vomira de sa bouche ce grand ensemble sans vie. Pour nous aider dans l'interprétation des messages, remarquons une distinction entre les trois premières et les quatre dernières assemblées. Dans les trois premières, l'appel adressé à celui qui a des oreilles à écouter ce que l'Esprit dit aux assemblées précède la promesse au vainqueur, tandis que, dans les quatre derniers messages, cet appel vient après la promesse. De plus, dans les trois premiers messages, il n'est pas fait mention de la venue du Seigneur, tandis que dans les quatrième, cinquième et sixième, la venue du Seigneur est présentée soit comme une espérance, soit comme un avertissement. Par ailleurs, dans les quatre derniers messages, nous voyons un résidu fidèle séparé de la corruption croissante. Ces différences peuvent s'expliquer par le fait que les trois premiers messages montre l'état général de l'Église durant les trois premières périodes successives de son existence sur la terre, phases qui ont disparu, tandis que les quatre dernières représentent des étapes distinctes de la profession chrétienne qui ne succèdent pas l'une à l'autre, mais coexistent jusqu'à la venue du Seigneur. Dans les trois premiers messages, représentant l'état général de l'Église, celui qui a des oreilles se trouve au sein de l'Assemblée. Dans les quatre derniers, l'Église entière a fait faillite. Elle est dans un tel état de ruine que ceux qui écoutent ce que l'esprit a à dire ne se trouvent que parmi les vainqueurs, et par conséquent, l'appel vient après la promesse. Dans les trois premiers messages, il y a un appel à la repentance et à la possibilité pour l'Église de revenir à sa condition originelle. Dans les quatre derniers, l'état est tel que cette possibilité n'est plus placée devant elle et, par conséquent, la venue du Seigneur est présentée comme la seule espérance du résidu pieux. Note du traducteur. Dans les églises à Thyatire, Sardes et Laodicée, on voit bien aussi un appel à la repentance. Chapitre 2, verset 21, chapitre 3, verset 3 et 19. Mais le retour à la condition originelle n'est plus possible. Si d'un côté le rétablissement de l'assemblée dans son état primitif n'est plus envisagé, d'un autre côté, le fait qu'une porte, la repentance, soit placée devant chaque assemblée constitue un grand encouragement. Ainsi, il apparaît clairement que les quatre dernières églises sont distinguées des premières par trois faits précis. Premièrement, un résidu fidèle est distingué de la multitude corrompue. Deuxièmement, la venue du Seigneur est placée devant les églises. Troisièmement, celui qui écoute ne se trouve que parmi les vainqueurs. Dans la structure des messages, il y a une similitude quant à la manière dont la vérité est chaque fois présentée. Chaque message commence par une présentation de Christ dans un caractère qui, s'il avait été compris et retenu, aurait empêché le déclin de l'Église, ou qui, au sein de ce déclin, aurait soutenu la foi des fidèles dans leurs épreuves. Suit la déclaration de la parfaite connaissance que le Seigneur a de l'état de chaque assemblée, qui motive l'approbation ou la condamnation de ceux qui l'y trouvent. Ensuite, nous avons des avertissements spéciaux et des paroles d'encouragement. Enfin, chaque message se termine par une promesse spéciale au vainqueur.